France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. On ne sait pas encore quels risquent d'en être les séquelles neurologiques, même si son état s'améliore, mais le fait est acquis. Alexei Navalny a bien été empoisonné. Le principal opposant russe à Vladimir Poutine, le plus emblématique, est toujours sous traitement à Berlin. Les médecins allemands ont identifié le poison, le Novichok, une substance appréciée des services russes depuis les années soviétiques. Navalny a bien été victime d'un crime, a solennellement déclaré Angela Merkel mercredi dernier. De très graves questions se posent à présent auxquelles seul le gouvernement russe peut et doit répondre, a ajouté la chancelière. Aussitôt appuyée par Paris, les autres capitales occidentales, ainsi que par les dirigeants de l'Union européenne et de l'OTAN. Aucune raison d'accuser l'État russe, a répliqué le porte-parole du Kremlin, tout en indiquant que Moscou était prête au dialogue avec Berlin et les Européens. À une semaine des élections locales qui doivent intervenir dans une partie du pays, à un an des législatives, l'affaire Navalny a beau rappeler l'affaire Skripal, cet ancien agent russe et sa fille empoisonnés de la même manière en Angleterre en 2018, la dimension politique est d'une toute autre importance. Qui a voulu éliminer Navalny et dans quel but? Est-ce un signe de fébrilité de la part d'un système affaibli qui ne contrôle plus les siens? Pourquoi de telles méthodes? Peut-on imaginer aussi que le Kremlin sorte du déni? Jamais, en tout cas, Angela Merkel et les Européens ne l'ont aussi directement mis en cause. Le gaz russe va-t-il servir de levier? Au même moment, une autre crise en Biélorussie embarrasse Moscou et, dans une moindre mesure, les dirigeants occidentaux. Y a-t-il un lien? Le premier ministre russe était à Minsk jeudi et de nouvelles manifestations de masse sont prévues ce week-end. La méthode Poutine à l'épreuve, c'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous. Tatiana Kastoueva-Jean, bonjour. Dirigez le centre Russie Nouveaux États Indépendants à l'IFRI. Avec nous par téléphone, et je l'en remercie, Daniela Schwarzer, directrice de l'Institut allemand de politique étrangère à Berlin. Anna Colin-Lebedev, vous êtes maître de conférence à Paris-Nanterre, spécialiste des sociétés post-soviétiques. À Moscou, merci mille fois Igor Jurgens, vous dirigez l'Institut de développement contemporain, merci beaucoup d'être avec nous. Et à Lille, Andrei Kozovoy, historien, maître de conférence à l'Université de Lille. Tatiana, je commence avec vous pour que vous nous expliquiez ce que peut représenter Alexei Navalny dans le paysage politique et sociétal russe. Ce qui m'a frappé en lisant beaucoup de papiers sur lui ces derniers jours, c'est que c'est quelqu'un dont le pouvoir russe s'efforce de ne jamais dire le nom.
Tout à fait. Il est appelé différemment cet homme, ce personnage, ces derniers temps, ce patient. Mais le nom, son nom, en effet, n'est jamais prononcé. Et pour la première fois, il a été mentionné récemment sur le site kremlin.ru dans un communiqué officiel, car la conversation a quand même porté avec la chancelière Merkel sur l'état de sa santé. Pour la première fois, on entend parler de Navalny en 2009-2010. À ce moment-là, c'est un blogueur qui dénonce les affaires de corruption, de gabégie, de détournement de fonds. Il a un blog qui s'appelle Raspil. Un autre point très fort dans sa carrière, ce sont les protestations de 2011 et 2012. C'est là où il s'érige vraiment en chef de file de l'opposition libérale, non systémique. Il est prêt à prendre la parole sur la place publique. Il s'avère très doué, il parle très bien.
C'est un avocat de formation.
Voilà, tout à fait, c'est un avocat.
Il y avait eu d'ailleurs une bourse pour l'université de Yale.
De Yale, voilà, j'allais y venir parce qu'il y a plusieurs reproches qui lui ont fait par les différentes forces. Il est accusé d'être l'agent du Gosdep, du département d'État, à cause de cette formation américaine. Il a été expulsé du parti démocrate Yabloko pour ses regards, pour sa vision un peu trop nationaliste, les accusations dont il n'arrive pas toujours à se défaire. Il est aussi accusé d'être le projet du Kremlin. une sorte de projet pour canaliser le mécontentement social d'une partie de la population sans laisser déborder. Je pense que ça, c'est le discours qui devrait être quelque peu clos avec cet empoisonnement.
En tout cas, il paye de sa personne depuis des années. Il a d'ailleurs parfaitement compris quand les réseaux sociaux ont émergé en Russie, il en a parfaitement compris l'usage et il a beaucoup contribué à démontrer par des vidéos qu'on peut voir d'ailleurs sur YouTube le luxe et donc la corruption d'une certaine élite russe.
Ces vidéos sont vraiment très très regardées. Par exemple, pour celle qui a marché le mieux, c'est la vidéo sur Dmitri Medvedev et son
trompe. Donc l'ancien Premier ministre.
L'ancien Premier ministre qui montre le décalage entre le discours quand il dit il n'y a pas d'argent mais tenez bon. Et le véritable train de vie. Cette vidéo a été, par exemple, visionnée plus de 36 millions de fois, ce qui est énorme pour le pays.
Et il a aussi été emprisonné souvent, son frère aussi, tout le groupe de militants qui l'entoure. Mais il a opté depuis quelque temps pour une tactique qui semble payer sur le plan politique, et c'est le vote intelligent. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est l'année dernière, au mois de septembre, qu'il avait lancé ce vote intelligent pour les élections à la Douma de Moscou. Le but, en fait, est d'inciter, de pousser les gens à voter pour tout candidat autre que le candidat du parti au pouvoir, Russie Unie. Que ce soit communiste, que ce soit nationaliste du parti de Jirinovski et des pairs, montrer que le parti au pouvoir n'est pas complètement maître du jeu et les faire échouer par ce vote intelligent. Et je pense que ça a beaucoup embêté le Kremlin. Ça a été une vraie épine dans le pied du Kremlin pour ces élections. Et Alexei Navalny pensait réitérer cette technique qui s'avérait assez bonne cette année pour les élections régionales qui doivent avoir lieu le 13 septembre.
Et il était donc à Novosibirsk.
Il
prend l'avion, il boit un verre de thé.
Voilà, il allait à Tomsk justement pour tourner encore une vidéo sur la corruption des dirigeants locaux du parti Russie Unie.
André Kozovoy, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes maître de conférences à l'Université de Lille et vous avez publié un livre très intéressant sur l'histoire des services secrets russes. Ce qui est intéressant dans la réaction du Kremlin à cette affaire Navalny, donc qui est hospitalisé à l'hôpital de la Charité à Berlin sur l'insistance d'Angela Merkel elle-même. Et on pouvait lire hier que le Kremlin continue de nier, en trouvant même un toxicologue russe qui a dit le problème de Navalny, c'est le stress, la drogue, l'alimentation, mais sûrement pas le poison.
Oui, absolument. Ils vont nier, bien entendu, parce que de toute façon, la nature même de cette opération, si c'en est une, bien sûr, c'est la possibilité de nier l'utilisation du poison. On le sait, elle est très ancienne dans l'histoire. On a utilisé le poison pour empoisonner dans un contexte politique depuis l'Antiquité. Et il y a toujours ce que l'on appelle...
Mais ça, pas seulement en Russie.
Mais évidemment, la Russie n'a pas le monopole des empoisonnements, il faut quand même le souligner. Parce que certains ont pu penser à un moment donné qu'il n'y avait que des poisons qu'on utilisait en Russie, non, c'est pas du tout vrai. Donc il y a eu toute une histoire du poison avant que le poison soit entre guillemets à la mode, devienne à la mode en Russie, et la possibilité effectivement de nier, de dire ce n'est pas nous, c'est une intoxication, etc. Et ça c'est lié effectivement à la méthode qui est choisie ici.
Et c'est exactement la même méthode qui avait été utilisée en 2018 quand cet ancien agent du GRU Skripal et sa fille sont empoisonnés en Angleterre à Salisbury où cet homme avait obtenu le refuge politique. Le même poison, donc le Novichok. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que le Novichok ?
Oui, alors tout d'abord l'affaire de 2018... qui est quand même encore dans les mémoires. En tout cas, en Angleterre, elle a tellement marqué les imaginaires qu'on en a même fait récemment un téléfilm. C'est une affaire, donc c'est la première fois que le grand public a vraiment entendu parler du Novichok, même si le Novichok, le poison donc, sur lequel je vais revenir, a été utilisé au moins une fois dans les années 90, par exemple. Alors, il s'agit d'une appellation un peu familière, hein, que certains spécialistes disent n'est pas conforme à la réalité. Il y a des noms plus techniques. C'est un dérivé des pesticides et on sait de manière à peu près certaine qu'il a été développé en Union soviétique à partir du milieu des années 70 jusqu'aux années 90.
Donc développé par l'État, et ça fait partie développé de l'arsenal militaire, c'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer dans sa salle de bain. Enfin,
voilà,
respect.
Il faut un petit peu, je pense aussi, tout à fait se replacer dans le contexte de la guerre froide. Et on sait qu'à l'époque, donc l'un des principes de la guerre froide, c'était la rivalité avec les États-Unis de l'Union soviétique. Et parmi les champs de rivalité, il y avait aussi les armes non seulement nucléaires, comme on le sait, mais aussi bactériologiques et chimiques. Donc le poison Novichok est un poison neurotoxique. Hein. Et évidemment, on peut pas, comme vous le disiez à un instant, trouver ce Novichok en vente libre par correspondance sur Internet, etc. C'est pas possible. Le manipuler requiert une logistique, des moyens qui sont ceux d'un État, ceux d'une grande puissance. Et c'est ce qui est le rapprochement avec l'affaire Skripal il y a 2 ans, donc cet empoisonnement. Le témoignage de plusieurs spécialistes, notamment il y en a un qui habite aux États-Unis aujourd'hui, qui s'appelle Vil Mirzayanov, qui a participé à la création, au développement de ce poison, et qui a écrit un livre depuis. Et ce Mirzayanov explique un petit peu que très certainement, si c'est le Novichok qui avait été effectivement utilisé pour empoisonner Navalny, eh bien, la dose toxique utilisée a été 10 fois plus importante que pour le cas de Skripal. Ce qui veut dire, en théorie, que s'il survit, il y a quasiment une certitude qu'il y a des qu'il y aura des conséquences.
Il y a, hélas, des séquelles. Alors, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de rappeler l'histoire personnelle du président russe, c'est-à-dire d'un Vladimir Poutine qui a été formé à l'école, d'ailleurs très exigeante, du KGB à la fin de l'ère soviétique, et donc une culture, évidemment, qui continue de l'imprégner, lui et son entourage.
Absolument, tout à fait. C'est l'objet d'un article que j'ai publié récemment pour le site The Conversation, c'est-à-dire qu'il existe selon moi une sorte de mémoire empoisonnée en Russie, qui est basée sur une culture. On pourrait distinguer dans cette culture en fait 3 strates. Mémoriel, il y a une première strate qui est très 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 ancienne, hein, qui remonte au Moyen-Âge, avec comme point d'orgue l'époque d'Ivan le Terrible, que l'on pourrait très bien aussi qualifier d'empoisonneur, pardon. D'autre part, il y a eu Staline, bien sûr, à partir de la fin des années 30, Staline, qui considère Ivan le Terrible comme un modèle politique, va conférer un laboratoire qui avait été créé sous Lénine en 1921, le laboratoire X. C'est une lettre de noblesse, c'est-à-dire qu'il va donner des moyens considérables au développement d'un laboratoire consacré au poison, avec des expériences qui vont être même menées, on le sait de manière certaine, sur des prisonniers. Voilà. Et puis arrive enfin l'époque Brejnev-Andropov. Brejnev, donc secrétaire général du Parti communiste, et Andropov, dirigeant du KGB entre 1967 et 82, l'époque où justement Vladimir Poutine fait ses premiers pas au KGB. Vladimir Poutine a commencé à travailler au KGB au milieu des années 70, et c'est, hasard ou pas, l'époque où on commence à développer cette arme qui est le Novichok.
Daniela Schwarzer, je rappelle que vous dirigez l'Institut allemand de politique étrangère. Merci d'être avec nous en direct de Berlin. On sait que Angela Merkel, qui parle russe, il ne faut jamais l'oublier, élevée à Berlin-Est, à l'époque de la RDA, les relations entre Madame Merkel et le président russe ont toujours été nourries, souvent tendues, mais c'est certainement de tous les dirigeants européens, elle, qui a, avec Vladimir Poutine, une forme de rapport. Et là, on l'a vu avec l'empoisonnement de Navalny, d'abord son insistance à obtenir le transfert du malade dans ce très grand hôpital de Berlin. Et ensuite, mercredi dernier, la manière véritablement comminatoire dont elle met en cause la responsabilité de l'État russe, c'est-à-dire en gros la responsabilité de Vladimir Poutine.
Oui, tout à fait. On dirait presque qu'elle a perdu patience avec avec Poutine. À mon avis, sa réaction s'inscrit dans une série de développements d'incidents. Il inclut les activités de la Russie en Syrie et dans d'autres pays du Moyen-Orient. Ensuite, la Biélorussie. Et maintenant, l'affaire Navalny. ce qui m'a frappé hier, mercredi, dans ses déclarations, c'était qu'elle engage tout de suite ses alliés, à la fois les partenaires au sein de l'Union européenne et dans le cadre de l'OTAN. Donc, on peut dire que l'Allemagne se met à la tête d'une réponse coordonnée et multilatérale face à Poutine, et tout ça signifie, à mon avis, une perte de patience avec le régime qui intervient hors de ses frontières, qui ne respecte pas les droits fondamentaux au sein du pays, comme on le sait. Et à mon avis, ces actions sont arrivées à un niveau où elle a dû réagir politiquement, parce que sinon son approche vis-à-vis de la Russie ne serait plus crédible.
Un mot précisément sur l'OTAN, où l'Organisation de l'Alliance Atlantique, dans un communiqué publié hier vendredi, demande, je cite, à la Russie de publier une sorte d'état des lieux de ce poison, le Novichok, et de tout révéler à cette organisation qui lutte contre les contaminations chimiques. Donc, véritablement, l'Allemagne a poussé le secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, à engager aussi l'Alliance dans cette affaire.
Oui, effectivement. Et pour tout cela, il y a quand même un cadre légal international, parce qu'il y a une convention de contrôle des armes chimiques. Et si c'est Novichok qui a été utilisé, c'est ou l'État russe qui l'a employé, ce qui n'est pas acceptable, évidemment, ou bien c'est l'État russe qui a perdu contrôle. Et donc, c'est pour ça qu'il y a toute raison d'engager l'Alliance et aussi d'engager les organisations de l'ONU qui s'occupent notamment du contrôle des armes chimiques.
Madame Merkel, vous le disiez, engage aussi ses alliés européens, à commencer par la France. Et on se souvient qu'il y a pratiquement un an tout juste, Emmanuel Macron, à la conférence annuelle des ambassadeurs de France, appelait à une ouverture vers Moscou. Et on se souvient d'ailleurs qu'à Berlin en particulier, mais aussi ailleurs en Europe, cet appel à l'ouverture russe n'avait pas été très apprécié. Là, j'imagine que pour Paris, en tout cas, qui a soutenu, Jean-Yves Le Drian a soutenu avec vigueur la démarche de Mme Merkel. Donc là aussi, c'est une crispation européenne et pas seulement allemande.
Oui, il y a un fort besoin de coordination franco-allemande dans cette affaire, parce que à la fois l'approche du président français que vous venez d'évoquer et l'approche allemande qui consiste à un engagement sélectif est remise en question, parce que cet engagement ne porte pas le succès attendu. Donc la Russie continue à être un pays qui est incalculable, donc il n'y a plus confiance dans les relations, on ne peut pas se baser sur quoi que ce soit. Et donc, à mon avis, ce qu'on va voir, c'est un engagement d'abord franco-allemand, mais aussi européen, sur la question comment est-ce qu'on conçoit la Russie et comment est-ce qu'on peut façonner la relation avec la Russie ensemble. Parce que si on fait le bilan des 12 derniers mois, on peut dire qu'il n'y avait aucun succès des démarches qui ont été prises.
Mais quels moyens de pression l'Europe, l'Allemagne est historiquement, culturellement prise très très au sérieux par les Russes. Mais quels moyens de pression les Européens peuvent-ils exercer, sauf le gaz? Et ça, c'est un projet que Mme Merkel elle-même a soutenu contre vents et marées, le projet de gazoduc Nord Stream 2, qui fait l'objet de la colère de Washington. D'ailleurs, les Américains ont imposé des sanctions. Et donc, c'est un gazoduc qui contournerait l'Europe de l'Est, et notamment l'Ukraine, pour fournir du gaz russe en passant par la Baltique directement vers l'Allemagne, qui en est grosse consommatrice. Est-ce que ça veut dire que ce projet de gazoduc est maintenant capoute?
Politiquement, il est remis en question, comme il a été depuis des mois ou des années. Mais là, cette semaine, on a vu un débat à la fois au sein de l'Allemagne et dans la classe politique allemande, s'il fallait rester sur ce projet, Et aussi dans le cadre européen, parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont très critiques par rapport à ce projet. Et donc, il y a, à mon avis, il y a deux options pour Merkel, parce que c'est effectivement un levier qu'elle a vis-à-vis de la Russie. La solution la plus radicale, ce serait de maintenant arrêter le projet. Ce serait un signal très, très fort, mais ce serait très compliqué à la fois politiquement, mais aussi d'un point de vue économique. La deuxième possibilité que je vois, c'est de dire à Poutine que si l'Allemagne continue à soutenir ce projet, c'est à condition que la Russie change son comportement. Donc il faut, à mon avis, rendre crédible la menace d'arrêter le projet un jour si la Russie ne respecte pas, disons, des règles fondamentales de loi internationale, par exemple. Après, il y a d'autres moyens, parce qu'il y a un régime de sanctions qui a été mis en place au sein de l'Union européenne. Depuis l'annexion de la Crimée, ces sanctions sont renouvelées tous les 6 mois. Jusqu'ici, à chaque fois, il était possible de réunir tous les pays derrière ces sanctions parce qu'ils sont décidés à l'unanimité. À mon avis, il y a des moyens d'élargir ce système, de rendre les sanctions plus dures. Et voilà, c'est ces deux approches qu'on peut prendre en même temps, ce qui est vrai. Et c'est aussi dans l'approche et français et allemand vis-à-vis de la Russie, il faut rester en dialogue. Il faut engager ceux qui ont intérêt à dialoguer. Et c'est pour cela les bonnes relations que l'Allemagne a pu maintenir malgré les suppression en Russie de la société civile, des médias, etc. Il faut s'investir davantage dans des relations qui ne sont pas les relations entre les gouvernements, mais plutôt le secteur académique, culturel, société civile, etc., pour déjà préparer l'après-Poutine.
Tatiana Kastueva-Jean, précisément ce que l'on comprend mal, à partir du moment où Moscou a autorisé le transfert d'Alexei Navalny, il y a maintenant une dizaine de jours, à Berlin, c'était accepté l'internationalisation de cette affaire qui échappait donc de fait au contrôle. Hier vendredi, le Kremlin demande à l'Allemagne d'ouvrir un dialogue pour en savoir plus sur, je cite, l'empoisonnement présumé de Navalny. En quoi peut consister de la part de Moscou cette demande de dialogue?
En effet, Moscou a accepté le transfert, donc le dossier est devenu un dossier international alors que les faits ont eu lieu sur le territoire russe. Mais on voit le même type de comportement de la part de Moscou que pendant plusieurs dernières crises. C'est toujours le déni intégral en bloc de la faute rejetée plutôt sur l'Occident. Et la Russie est allée même jusqu'à dire que quand Navalny a été envoyé à Berlin, il n'y avait pas de traces de poison dans son organisme. Et on voit toujours la même tactique d'une part de nier et d'autre part compléter cela par la formulation de plusieurs versions officielle formulée par les différentes têtes de l'exécutif, des députés, les propagandistes de la télé, etc., qui ne concordent pas. Même type de réaction a été observé dans l'affaire Skripal ou encore dans l'abattement de l'avion malaisien en 2014 au-dessus de l'est de l'Ukraine. Et malheureusement, je pense qu'en matière de changement de comportement, je lisais aujourd'hui un article d'Andrei Kortounov, quelqu'un qui est extrêmement reconnu en matière de politique étrangère en Russie et qui expliquait à quel point la politique de Moscou est finalement hermétique. Il y a très peu d'influence de l'extérieur pour pouvoir l'infléchir. En même temps, la Russie a encore beaucoup d'intérêt à préserver ses relations et notamment en matière de gaz, de pétrole. Vous avez mentionné le Nord Stream 2. C'est un projet clé depuis plusieurs années pour la Russie.
C'est essentiel pour son économie. Les hydrocarbures, c'est quoi? C'est la moitié
du PIB. 67% des exportations russes. Donc c'est extrêmement important. C'est tout l'équilibre du budget russe, la viabilité de son économie. Voilà, on sait que c'est une rente énergétique, malheureusement, avec quelques niches plus technologiques. Mais c'est vraiment
au cœur de la stabilité du système économique. C'est de là que viennent les réserves de change et les fonds souverains dont les autorités peuvent profiter en les injectant dans l'économie en cas de crise.
Et d'ailleurs, on a vu depuis 2-3 jours que le rouble, la devise, est donc au plus bas depuis 2016, que la bourse est en baisse, donc voilà.
Je ne pense pas que ce soit une tendance de longue durée. Hein. C'est les marchés ont réagi et ensuite ça peut tout à fait être rectifié. Donc j'en déduis pas encore des conclusions de longue durée.
Mais il y a aussi la pandémie qui joue son rôle dans l'inquiétude et dans un certain affaiblissement du tissu social russe et donc du contrôle politique.
Bien sûr, hein, sur différents aspects. D'une part, je pense que la classe des entrepreneurs, surtout les PME, n'a pas été satisfaite des mesures de soutien qui ont été prises lors de la crise. Et puis, par exemple, il y a des choses auxquelles ils ne pensent pas, mais qui vont jouer aussi, c'est la démographie. Il y a aussi cette crise-là qui a joué sur la démographie. Cette année, par exemple, en 2020, la chute de la population risque d'être la plus forte depuis 14 ans, de 340 000 personnes de moins, parce que ça joue, cette crise-là, à la fois sur le taux de mortalité qui augmente, sur le taux de natalité qui est en baisse, et c'est aussi sur l'immigration, car il y a moins de migrants qui peuvent venir dans le pays.
Et donc, ça veut dire quoi? On a vu pourtant Vladimir Poutine, enfin ça, c'était pas une surprise non plus, obtenir un score mirifique pour le vrai-faux référendum qui lui permettrait en tout cas de rester au pouvoir jusqu'en 2036. Mais est-ce qu'il y a une usure de ce système de pouvoir qui expliquerait aussi l'affaire Navalny?
Je pense qu'il y a aussi cette usure du pouvoir et une érosion lente, mais c'est un déclin qui est incontestable de la popularité de Vladimir Poutine, qui est le pilier aussi du système politique russe. Donc évidemment, c'est un facteur qui joue. Et dans le vote constitutionnel, qui ça s'est très bien passé pour Vladimir Poutine, la semaine qui a précédé le 1er juillet, ce vote. Et néanmoins, en fait, c'est curieux en Russie, mais le vote, ça ne veut pas dire que les gens font vraiment bloc derrière Vladimir Poutine. Ils peuvent soutenir la politique étrangère et être extrêmement critiques sur les questions économiques et sociales. Ils peuvent ne pas avoir de choix de voter autrement que dans ce sens-là, parce que il y a quand même ce qu'on appelle la ressource administrative, c'est-à-dire les directeurs qui vont inciter à voter dans un certain sens, voire sanctionner derrière. C'est aussi les falsifications, et ça, il y a plusieurs experts en Russie qui le prouvent avec les méthodes mathématiques que ces chiffres-là ne sont simplement pas possible. Et puis les conditions du vote étalées sur une semaine, avec très peu de contrôle, sans observateurs.
Et on a vu d'ailleurs que dans les grandes villes, en tout cas Moscou et Saint-Pétersbourg, là, Vladimir Poutine n'a pas eu la majorité.
Tout à fait. Et il faut aussi garder en tête qu'il y a Khabarovsk qui proteste depuis plus d'un mois.
Alors Khabarovsk, c'est donc cette ville
C'est une ville qui est dans l'extrême Orient russe et qui a vu son gouverneur, en fait, être destitué très rapidement. Le gouverneur qui était finalement très populaire, hein, même si il est accusé des choses assez terribles comme un meurtre. Et donc beaucoup de gens, des milliers de personnes dans la rue, quasiment tous
depuis
les jours.
Depuis deux mois. Hein.
Depuis presque deux mois. Ce qui est quand même énorme. C'est du jamais mais vu pour une province russe.
Et là, le régime laisse faire avec l'idée que c'est loin et tant qu'il n'y a pas de contamination, si j'ose dire, dans d'autres grandes villes russes, l'espoir c'est que ça s'éteigne tout seul.
C'est un petit peu comme ça, oui. Pour l'instant, la tactique. Il n'y a pas de répression de masse lors des manifestations. Je pense qu'il y a des pressions sur certains activistes, mais à titre individuel. Et ils laissent faire les manifestations et ensuite ils appliquent ces mesures de répression ciblées individuellement pour les têtes d'affiche, en quelque sorte.
André Kozovoy, c'est le moment, je crois, que vous nous expliquiez ce système du pouvoir à la Poutine. On a beaucoup dit que Vladimir Poutine, qui est le maître du Kremlin depuis plus de 20 ans maintenant, a installé une verticale du pouvoir avec ce système de Siloviki, donc ce mélange de gens des services de renseignement, les oligarques, ceux qui contrôlent par pans entiers une économie qui reste une économie basé sur les matières premières. Jusqu'à quel point est-ce que ce système pourrait échapper au contrôle du Kremlin. Est-ce qu'il y aurait quelques personnes zélées qui pensent faire plaisir au maître, soit en assassinant Boris Nemtsov en 2015, soit en empoisonnant Alexei Navalny en 2020?
Alors effectivement, ça c'est un petit peu la question que tout le monde, tous les spécialistes se posent, à savoir si le système dit de la verticale du pouvoir, c'était la grande annonce de Poutine quand il est arrivé au pouvoir en l'an 2000, à la présidence, est-ce que ce système est aussi rigide que cette formule semble indiquer? Je me permettrai d'abord un parallèle avec l'époque soviétique, hein. Je suis un petit peu historien de l'époque soviétique, donc c'est un peu mon dada. Et on avait quand même eu à l'époque soviétique aussi le fantasme d'un parti-État omniscient, tout-puissant, contrôlant sa population pendant très longtemps. Certains ont pensé ça, que tout était verrouillé, etc., qu'il n'y avait pas de marge de liberté. Et puis on s'est mis à découvrir petit à petit, je parle encore de l'époque soviétique, des oasis de liberté, à partir de surtout de la période de la déstalinisation sous Khrouchtchev, puis plus tard sous Brejnev, puisque c'est une vision un petit peu rétrospective. Comment du coup expliquer l'effondrement de l'URSS si on l'explique uniquement à partir du Kremlin, à partir de la décision de Gorbatchev de libéraliser le système?
Pour en venir à l'affaire Navalny.
J'en viens, si vous voulez, à ce parallèle, pourquoi j'utilise, c'est parce que c'est quand même intéressant aussi pour comprendre le présent. Et aujourd'hui, on a un système, bien sûr, très différent de l'époque soviétique. Et donc, beaucoup de gens se disent, après tout, voilà, verticale du pouvoir, système verrouillé, etc. C'est un petit peu comme aussi ma théorie, c'est de dire que une décision comme celle d'employer le Novichok, elle n'aurait pas pu être prise sans l'aval du Kremlin, sans l'aval du président russe, ou alors là, de son proche entourage. En tout cas, Vladimir Poutine, certainement, est impliqué.
Alors, on parle de ce personnage qu'on évoque souvent.
Voilà, on pense souvent à
Monsieur Prigogine, surnommé le cuisinier du Kremlin.
Voilà, c'est un peu l'éminence grise du Kremlin. Alors ce Prigogine, il a été surnommé le cuisinier du Kremlin puisque c'est à l'époque où il était dans la restauration à Saint-Pétersbourg qu'il a fait connaissance de Vladimir Poutine. Hein, il a eu plusieurs casquettes. Après, il s'est spécialisé dans le marketing politique. Il a été à l'origine de ce qu'on appelait la fabrique des trolls, c'est-à-dire une institution officiellement consacré à l'étude d'Internet, en réalité donc employant des centaines de personnes, surtout j'imagine des jeunes, pour diffuser des messages de désinformation dans le monde, notamment sur les réseaux sociaux, très impliqué dans la campagne présidentielle de 2016. Puis récemment, une autre casquette qui lui a été donnée aussi, c'est celle d'avoir créé cette unité de mercenaires.
Wagner.
Voilà, qu'on a connu dans plusieurs endroits dans le monde, en Afrique et en Syrie aussi. Et j'en viens à la question du poison, puisque il y a, je crois, 2 ans, un de ses proches a raconté comment donc cette unité Wagner avait eu pour mission d'utiliser des poisons, d'expérimenter des poisons en Syrie sur soit des prisonniers, soit des personnes qui travaillaient pour les Russes. Alors, on ne sait pas beaucoup de choses sur cette opération. Mais donc, pour revenir à la question de départ, à savoir, est-ce que c'est pas l'entourage de Poutine qui aurait eu pris l'initiative d'empoisonner Navalny? Certains vont dire que oui, certains vont dire que Poutine ne contrôle pas grand-chose, qu'il est une cellule parmi d'autres, hein, on peut pas le comparer, par exemple, à un parrain de la mafia, c'est pas du tout le même principe, mais il paraît quand même difficile d'envisager, encore une fois, vu ce que l'on sait sur le Novichok, la logistique que cela implique, qu'il n'ait pas été au courant et qu'il n'ait pas été averti, encore une fois, de son utilisation.
Partons pour Moscou maintenant, vous rejoindre. Igor Jurgens, merci mille fois d'être avec nous. Je rappelle que vous dirigez l'Institut de développement contemporain. Que dit-on à Moscou sur cette affaire Navalny? On a une idée de ce que racontent les médias officiels. Quels commentaires entendez-vous?
À part des médias officiels, qui bien sûr le nier tous les faits, toutes les choses qui sont déjà claires pour les Allemands. Et il y a une quinzaine de pourcents de population russe qui sont vraiment pour Navalny, qui sont soit collègues, soit camarades, soit considèrent eux-mêmes les membres de l'opposition. Ils sont très, très inquiets. Ils sont unis pour une fois parce que l'opposition russe est toujours très, très divisée. Donc, quinzaine de pourcents de population sont très inquiètes. Le reste, c'est muet, hein, il n'y a rien du tout. par rapport à ce qui s'est passé à Biélorussie, par exemple, c'est presque passif. Mais le 15% dont je mentionnais, à travers de réseaux sociaux, à travers de médias qui sont plus ou moins ouverts, comme Echo Moscou et Novaya Gazeta, ils parlent, ils se prononcent, ils protestent, ils demandent l'enquête approfondie.
On voit que ce Evgeny Prigogine dont nous parlions à l'instant s'est aussi empressé de racheter une grosse dette que l'organisation de Navalny et son entourage devait à un certain nombre de gens en fonction de procès antérieurs. Et alors Prigogine, avec une grande délicatesse de langage, a racheté cette dette en disant, je le cite, « il faut foutre ces gens à poil ». Jusqu'à quel point est-ce que Prigogine est, selon vous, un personnage central dans cette affaire?
Je ne sais pas. Il y a trois versions, bien sûr. Il y a trois options. Soit c'est soi-disant l'état profond dont M. Prigogine fait partie, soit c'est les éléments et les personnages qui ont été compromis par les enquêtes de Navalny sur la corruption, soit c'est l'état, les services secrets. Donc je ne vois pas à part de ces trois options, je ne vois pas d'autres. Donc, Prigogine est dans le premier et dans le deuxième. Il était bien sûr très, très, très comment dirais-je, impliqué dans les enquêtes de Navalny. Il était sous sanction des États-Unis à cause de cela, sous sanction de différents autres pays. Il souffre même au niveau économique. Donc, et bien sûr, il fait partie de soi-disant l'état profond, dont le contrôle de la part de présidence est un grand point d'interrogation.
Vous mentionnez, il y a donc cette crise avec les Européens de l'Ouest, avec l'affaire Navalny. Il y a à l'Est l'autre crise, la Biélorussie, où l'on voit depuis les élections qui ont eu lieu donc il y a quelques semaines, on voit la contestation populaire, la contestation de masse, la mise en cause d'un dirigeant qui est en place depuis 26 ans. Qu'est-ce qu'on dit de cette crise à Moscou ?
Ici, j'imagine que la proportion des gens qui se prononçaient est un peu plus large que dans le cas de Navalny. Selon les census, selon les enquêtes populaires informelles, 23% sont pour l'opposition en Biélorussie, environ 50% sont pour Loukachenko, imaginez-vous, et les restes sont neutres. Dans le cas de Navalny, c'est 15% et quelque chose. Donc ici, l'indignation des gens jeunes, des gens progressistes, sont beaucoup plus prononcées. Et bon, écoutez, quand même, c'est un peu beaucoup plus silencieux que, par exemple, dans le cas de Nemtsov ou même dans le cas de Virzilov, encore une victime d'empoisonnement.
Et donc, la télévision d'État russe, est-ce qu'elle continue de traiter les manifestants biélorusses de marionnettes des Occidentaux avec le vocabulaire de M. Kisieliev, enfin tous les animateurs de la propagande officielle?
Oui. Je peux vous avouer, Madame Ocran, que pour sauver ma propre vie et ma santé mentale, je ne vois pas plus Kisilov et Soloviov. Mais pour le reste, c'est un peu vulgaire, c'est pas civil, c'est pas culturel, et donc c'est pas là où la bataille actuellement est conduite. C'est plutôt les réseaux sociaux et les autres. Donc, à mon avis, les Biélorusses se prononçaient fortement et finalement. Ils sont contre Monsieur Loukachenko et même avec l'aide de la Russie, ça va pas durer longtemps. Mais dans les courtes durées, peut-être, malheureusement, l'opposition sera effacée, au moins affaiblie.
Restez avec nous quelques minutes encore, si vous voulez bien, Igor Jurgens. Le temps que je demande à Daniela Schwarzer, rapidement, Daniela, vis-à-vis de la crise à Minsk, Madame Merkel et l'Union européenne, il faut rappeler évidemment que l'Allemagne assume pour quelques mois encore la présidence de l'Union, la prudence est de mise.
Évidemment, on observe de très proche ce qui se passe en Biélorussie. Il y avait une réponse commune de l'Union européenne, mais il y a quand même des États membres qui sont plus actifs, qui sont plus proches de la Biélorussie, notamment les pays baltes. Et donc, on voit qu'il y a beaucoup de, un soutien aussi dans l'opinion publique pour les opposants. Mais on voit très clairement qu'il y a une différence entre ce qui se passe à Minsk et dans tout le pays d'ailleurs, et de ce qui s'est passé en Ukraine et d'autres pays. Parce que pour l'instant, ce n'est pas un conflit entre l'opposition et le gouvernement qui consiste à mettre en question l'orientation de la Biélorussie entre la Russie et l'Union européenne. Donc ce ne sont pas des manifestations pour l'intégration européenne ou un rapprochement de l'Union européenne, mais c'est la critique du régime et c'est la remise en question, évidemment, des résultats d'élections publiées. Et c'est pour ça qu'il est très important que l'Union européenne ne donne pas des raisons à la Russie de prétendre que ce soit un conflit qui est créé ou animé par les pays européens ou bien l'Union européenne. Mais il s'agit de soutenir avec caution ce qui se passe et notamment de créer un public et créer un débat autour des événements pour démontrer les abus de droits de l'homme et tout ce qui se passe au jour le jour à Minsk, dans les prisons, mais aussi dans la rue.
Daniela Schwarzer, merci mille fois d'avoir été avec nous. Je retourne vers vous, Igor Jurgens, à Moscou. Est-ce que le Kremlin voit dans cette crise biélorusse une leçon? Est-ce que le Kremlin n'a pas trop tardé à mettre la pression sur le président biélorusse qui a toujours voulu jouer cavalier seul jusqu'à un certain point, qui a toujours tenté de jouer de la position géographique de la Biélorussie pour distendre un tout petit peu ses liens avec Moscou tout en subissant une dépendance économique complète?
Actuellement, nous avons eu la visite de premier ministre russe en Minsk, la visite de ministre des Affaires étrangères, ensuite le ministre de Défense biélorusse à Moscou, et on attend M. Loukachenko d'un jour à l'autre. J'imagine que le plan est d'avoir l'intégration très ferme, très solide, cette fois-ci, malgré toutes les réticences et les réserves de M. Loukachenko. Ensuite, de préparer quelqu'un qui peut remplacer M. Loukachenko, être 100% loyal à Moscou. Et ensuite, d'avoir une base militaire forte qui a été niée et qui a été pas établie à cause de la position de M. Loukachenko, qui a promis, ensuite retenu, etc. Donc, à ce moment-là, l'intégration de Biélorussie est en question et sous l'ordre du jour. Et tragiquement, c'est le moment quand, à cause de Navalny, à mon avis, les voies de négociation, les voies de contact sont presque coupées.
Entre qui et qui?
Entre l'Est et la Russie. Oui. Parce que on a attendu M. Macron à septembre avec le programme assez intéressant. Et maintenant, bien sûr, j'imagine que M. Macron ne vient pas. Et les restes sont très négatifs vers la présidence russe. Et donc, pour le moment, de négocier quelque chose de plus intelligent que simplement l'intégration de Biélorussie, je ne vois pas les voies.
Igor Jurgens, merci mille fois pour cette analyse. Je me tourne enfin vers vous, Anna Colin-Lebedev. On ne vous a pas encore entendu. Je rappelle que vous êtes spécialiste des sociétés post-soviétiques, maître de conférence à l'université Paris-Nanterre. Vous connaissez bien la Biélorussie. J'ai eu l'occasion, moi, d'y aller une fois et c'était, vous savez, comme dans ce film allemand Goodbye Lénine, où on avait l'impression qu'on avait reconstitué à plus petite échelle un espèce de paradis soviétique. C'était étrange, une sensation étrange, aussi bien esthétique que politique d'ailleurs. Cette fusion sur laquelle insiste Igor Jurgens, ce serait donc le prix que Moscou ferait payer à Minsk pour maintenir Loukachenko au pouvoir. Quelle est l'interprétation que vous en faites?
Alors, si c'est le prix à payer, ce prix sera très lourd pour le pouvoir biélorusse également. Mais pour l'instant, nous n'avons en réalité aucune certitude. Très peu de choses ont filtré de la rencontre entre le Premier ministre russe et Alexandre Loukachenko. Donc en réalité, c'est vrai que cette option d'une intégration poussée a toujours été rejetée par le président biélorusse, qui était très attaché à préserver avec un jeu habile de je t'aime moi non plus la souveraineté de son pays. Bon, il n'est aujourd'hui effectivement Alexandre Loukachenko ne semble pas avoir énormément de recours. Il se refuse absolument de parler, disons, aux personnes qui s'opposent à lui au sein même de son pays. Il essaie de parler à ce qu'il pense être son électorat traditionnel, mais des ouvriers, des personnes âgées, le milieu rural. Mais cet électorat l'entend de moins en moins. Il a l'impression de perdre ses bases. Il refuse d'adresser la parole à ceux qu'il considère comme, voilà, totalement illégitimes, hein, le conseil de coordination de l'opposition. Et donc, il se tourne vers l'unique interlocuteur qui lui reste, qui est Moscou, à qui, effectivement, il n'a pas grand-chose d'autre à offrir qu'une certaine perte de souveraineté. Mais, une fois de plus, les jeux, ce n'est pas joué pour l'instant. Hein. Les événements peuvent prendre des tournures très différentes.
Mais on voit aussi que le fait de ne pas prévoir de succession, apparemment, il a Alexandre Loukachenko qui a des idées assez bizarres. Hein. Quand la pandémie a éclaté dans son pays, d'abord il a nié qu'elle existât, ensuite il a dit une bonne rasade de vodka de toute façon et ça passe. Et alors il a un fils de 15 ans qui promène partout et apparemment, voilà, il verrait ou il aurait vu jusqu'aux manifestations massives depuis plusieurs semaines maintenant, et sans doute vont-elles se répéter ce week-end. Est-ce que comme tous ces gens qui s'installent dans une idée de leur propre pouvoir et qui perdent le sens du réel, est-ce qu'il a une option quelconque ou est-ce qu'il ira à Moscou rendre en fait les armes à son suzerain?
Alors, il y a effectivement plusieurs questions là-dedans. Une question, c'est celle de la nature des élites politiques à l'intérieur de la Biélorussie. Car effectivement, s'il y avait un personnage de compromis, par exemple, qui aurait pu satisfaire à peu près en phase transitoire, les protestataires, satisfaire Moscou et convenir à Loukachenko, eh bien, on aurait pu amorcer, disons, Moscou aurait pu amorcer un jeu de mise en place progressive d'un successeur. Or, en fait, le système politique Loukachenko extrêmement vertical à un peu sur le modèle russe, mais je dirais beaucoup plus sur que le modèle russe, nier toute personnalité politique qui serait émergente, qui serait autre chose juste que des fonctionnaires loyaux et interchangeables autour du président. Donc en réalité, voilà, il n'y a pas de figure qui se détache. Il y a effectivement, mais on est plus dans le domaine, on va dire, du psychologique et du personnel, cette relation très particulière qu'il a avec son fils, mais aussi cette relation qu'il désigne de temps à autre comme successeur, qui d'ailleurs probablement aura quitté la Biélorussie d'ici peu. Hein. En tout cas, on a des bruits comme ça. Mais aussi cette relation très particulière qu'il pense entretenir avec son pays, avec le pays qu'il dirige.
Enfin, c'est quand même bizarre parce que les manifestants, il les appelle les rats, Et manifestement, la misogynie étant quand même fortement à l'ordre du jour, l'idée que ces jeunes femmes qui ont surgi de la société civile, même si deux d'entre elles au moins sont les épouses de militants emprisonnés, voilà, ces jeunes femmes n'étaient en rien à prendre au sérieux.
Alors effectivement, il y a eu un jeu paradoxal auquel Loukachenko s'est retrouvé un petit peu perdant. La société biélorusse n'est pas une société misogyne. C'est une société où les femmes ont une vie active, professionnelle, sont éduquées, sont très impliquées dans la vie publique, pas forcément à des fonctions explicitement politiques, mais disons dans l'ombre, elles occupent pas mal de fonctions du pouvoir. Mais effectivement, il y avait cette idée que une femme d'eux finalement ne représentait pas une menace suffisante. Justement, parce que ces femmes étaient très éloignées de la vie publique, elles ont pu acquérir de l'influence, elles ont pu avoir un impact dans la campagne, elles parlaient vrai, elles ressemblaient aux Biélorusses moyens. Et paradoxalement, aujourd'hui, les femmes protestataires protègent les hommes protestataires. C'est-à-dire que l'autre facette de cette misogynie, c'est une sorte de galanterie à l'ancienne qui considère qu'une femme n'est pas une menace sérieuse et donc on ne doit pas la frapper directement. Donc voilà, aujourd'hui, on a aussi cette dimension-là dans le jeu entre le pouvoir et les protestataires.
Anna, Colin Lebedev, merci pour ces analyses. Tatiana Kastoueva-Jean, on arrive pratiquement à la conclusion de cette discussion. J'étais frappée par la remarque de notre ami Igor Jurgens qui disait au fond quel dommage. Il faisait le lien entre l'affaire Navalny et la crise biélorusse en disant à cause de ces tensions évidentes dues à l'empoisonnement de Navalny, on va pas trouver de solution intelligente, a-t-il dit, pour la Biélorussie. Qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis?
C'est que les dossiers de déception, de méfiance s'accumulent. Et en effet, il est extrêmement difficile de faire confiance sur un dossier et de discuter bien, alors qu'il y a quand même des affaires extrêmement lourdes en cours. En même temps, le lien, il n'est pas automatique, il n'est pas direct, parce que dans la crise biélorusse, la dimension, à la différence de la crise en Ukraine, la dimension pro-européen ou contre-européen, c'est une dimension qui n'est pas du tout en avant-plan. Et elle est toute petite, et on se demande encore si elle existe.
Et il y a eu quand même une demande assez timide de médiation européenne de la part de quelques membres de l'opposition biélorusse, mais elle n'a pas
tout à fait
été
très timide. Et en même temps, semble-t-il que cette opposition refuse, par exemple, les aides financières de la part de l'Union européenne, justement pour éviter de donner l'impression de provoquer la Russie. Politiser ce dossier, d'y introduire cette dimension, en fait, pro ou contre, pro-russe, contre-russe, pro-européen, contre-européen, je pense que ce serait assez contre-productif. En fait, le bon scénario aurait été peut-être le scénario à l'arménienne, quand c'est par la révolte de la rue que le pouvoir a été changé, mais le Kremlin a quand même accepté le nouveau leader issu de ces protestations. Les liens sont restés extrêmement forts.
Avec la même dépendance économique.
Tout à fait. Il y a une similarité au niveau de la dépendance économique, mais aussi stratégique en matière de défense entre la Russie et l'Arménie, et aussi la Russie et la Biélorussie. Mais malheureusement, plus le temps passe, plus les protestations durent, il devient difficile pour le Kremlin de ne pas soutenir Loukachenko. Ça veut dire céder devant la force de la contestation publique, avec cette idée de céder aussi à l'Occident indirectement.
Et avec les manifestations qui continuent, comme vous le rappeliez, à Khabarovsk.
Tout à fait. Et je pense que le Kremlin a aussi quand même déjà en tête 2024 et les élections présidentielles. Donc il ne faut pas donner de mauvais exemples. Et je crains que, en fait, là où les deux affaires se joignent, Navalny et Biélorussie, c'est dans les conséquences pour la société civile russe, qui, à mon avis, va être extrêmement claire, c'est encore moins de liberté politique, encore plus de serrage de vis, parce que comme on a vu en Biélorussie, même Tikhanovskaya, la femme d'eux, peut finalement fédérer des forces et représenter un risque pour le système.
Et tout cela dans un calendrier international extrêmement chargé, la mise en cause des agissements russes dans la campagne présidentielle américaine qui est en cours, la mise en cause par Madame Merkel elle-même devant le Bundestag, je crois que c'était en juillet dernier, des opérations d'espionnage à Berlin, la mise en cause à Londres par une commission parlementaire britannique des agissements russes au moment du référendum Brexit et au moment des dernières élections législatives. Donc, si on accumule tous ces nuages sont bien lourds pour essayer d'imaginer, pour reprendre l'expression de Jürgens, des solutions intelligentes entre le monde russe et les Occidentaux. Au-delà des divisions entre les Occidentaux eux-mêmes.
Je pense que l'horizon est bien assombri. Il faut voir quelles seront les sanctions, les nouvelles sanctions, quelles seront les mesures qui vont être élaborées par le tandem France-Allemagne, dans quelles mesures ils seront suivis par les autres pays européens. Donc, évidemment, on est très probablement déjà au creux de la vague avec la nouvelle crise qui est en cours. Pour la France, la question se pose aussi, quelles conséquences un an plus tard, cette politique de reset lancé à Brégançon. Je pense que ce sera beaucoup plus difficile à défendre devant notamment la Pologne et les pays baltes, ce type de politique. Et en même temps, je crois que les relations entre la France et la Russie ont connu plusieurs crises. Et je pense que la volonté quand même de maintenir le dialogue, elle sera toujours là, aussi difficile qu'elle soit. Et les premières choses sur lesquelles on pourra déjà juger, le 14 septembre, il y a le Conseil de coordination pour les questions de sécurité. On va voir s'il est maintenu et de quelle manière la question sera posée sur le cas Navalny. Et il y a évidemment la question à suspendre de la visite de Macron qui avait été prévue fin août et ensuite début septembre. Il n'y a toujours pas de date. Est-ce qu'il sera maintenu ou pas? Ce sont déjà les premiers signes sur lesquels on pourra juger de la suite.
Eh bien, merci à vous, Tatiana Kastoueva-Jean. Je rappelle que vous dirigez le Centre Russie Nouveaux États Indépendants à l'IFRI et vous avez réédité un très bon livre sur la Russie de Poutine en 100 questions aux éditions Taillandier, donc une édition mise à jour. Merci aussi à Alain Colin-Lebedev, maîtresse de conférence à Paris-Nanterre, Daniela Schwarzer à Berlin. Vous dirigez l'Institut allemand de politique étrangère, dont les analyses sont évidemment disponibles en allemand et en anglais sur le site de la DGAP. Je remercie vivement Andrei Kozovoy. Vous êtes historien, maître de conférence à l'Université de Lille, et vous avez publié chez Taillandier aussi, cette année, Les services secrets russes des tsars à Poutine, un ouvrage qui est décidément d'actualité. Et je remercie bien sûr Igor Jürgens, directeur de l'Institut de développement contemporain, qui était avec nous par téléphone de Moscou. À la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud. À la technique, Olivier Arnay. Hugo Boursier a préparé cette émission avec moi comme chaque semaine et comme chaque samedi. Vous avez maintenant rendez-vous avec Hervé Gardette. Très bon week-end. À samedi prochain.